France Inter. Le 7-10.
Mardi 2 avril, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'angoisse de l'eau qui monte en Bourgogne.
Le pic des crues n'est pas encore atteint alors qu'avec le changement climatique, les assureurs doivent faire face à des coûts d'indemnisation exponentiels. En Syrie, 11 morts dans une frappe sur le consulat d'Iran à Damas. Le procès de militants de l'ETA qui prétendait neutraliser l'arsenal de l'organisation terroriste. Et puis, comment peindre l'apocalypse, sorti aujourd'hui de la BD événement La Route de Manu Larcenet, qu'on entendra à la fin de ce journal.
Invité rendez-vous de France Inter ce matin à 7h15. Le zoom sur l'IRM la plus puissante au monde. Elle est en France et livre ses premières images. À 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Je reçois Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France, qui bataille entre autres pour que les grandes compagnies d'assurance apportent enfin voilà. Les réparations aux sinistrés des inondations.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien avec le dramaturge Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre National de la Colline à Paris. 9h20, Léa Salamé reçoit Bichente Lizarazu.
France Inter.
La plus grande prudence toujours de mise en Bourgogne. Depuis hier soir, la Saône-et-Loire est à son tour en vigilance rouge, crue majeure sur la rivière Arroux. Toujours vigilance maximum aussi pour Lyon. L'Armançon a commencé à déborder hier matin à cause de sols déjà saturés et de pluies intenses. La crue est arrivée trop soudainement, dit le maire d'Aisy-sur-Armançon. L'eau a dépassé le record de 2013. La rue principale est totalement inondée et dans les maisons, le niveau atteint parfois 90 cm, Pauline Boudier.
Laurence ne prend même plus la peine de mettre des bottes de pluie. L'eau l'a surprise, alors elle a gardé ses mocassins pour constater les dégâts.
J'ai une terrasse, mais elle est submergée. Là, j'ai 1,80 m d'eau à peu près dans le jardin. Ici, c'est ma chambre. On a rehaussé tout ce qu'on a pu.
Le canapé sur la table, la commode sur le lit pour tenter de sauver les meubles des 10 cm d'eau infiltrée dans la maison. Mais Laurence ne se fait pas d'illusions. Elle prend déjà des photos pour l'assurance.
Je ne sais pas dans quel état va être ma maison après. Les parquets flottants seront fichus. Et l'eau, quand ça s'infiltre, c'est terrible, quoi. Puis ça laisse des odeurs, ça va abîmer tout, les fondations de la maison. Je ne sais pas comment ce sera après. On ne peut rien faire contre l'eau. Hein. C'est impossible. On a sauvé des sacs de granules, mais... C'est dérisoire, quoi.
La retraitée veut retenir ses larmes, mais pas facile. Elle rêve de cette maison depuis longtemps et l'a achetée il y a 6 mois seulement.
Ça reste du matériel, mais quand on achète une maison, c'est la soupape un peu aussi. Hein. Je suis pas la seule, hein. Mais c'est impressionnant, oui.
En attendant de pouvoir retrouver sa maison, elle est hébergée par un voisin. Cette solidarité lui dessine malgré tout un sourire résigné sur les lèvres.
Reportage France Bleu Auxerre, l'onde de la crue se déplace vers Laval. La crue du Serein devrait toucher ce soir aussi la commune de Chablis et ses vignes. Et le niveau de l'eau va monter aussi tout près de Dijon. Pour l'instant, difficile d'estimer les dégâts, mais ils seront sans doute majeurs. Et seront-ils remboursés? Depuis la multiplication de ces inondations souvent liées au réchauffement climatique, les coûts explosent pour les assureurs. 70 milliards d'indemnisations supplémentaires d'ici à 2050, selon Bercy. Alors qu'un rapport très attendu sur l'assurabilité des risques climatiques est remis cet après-midi au ministre de la Transition écologique et de l'économie. Certains habitants, comme dans le Pas-de-Calais, se demandent s'ils seront toujours assurés à l'avenir. Rémi Brancato.
À Blandec, dans le Pas-de-Calais, Sébastien Soudan et sa famille ont déménagé dans la même rue. Il s'attendait à voir le prix de son assurance augmenter, mais pas autant.
La mensualité avait doublé.
Certes, sa maison est plus grande, mais la hausse est surtout due à l'augmentation du risque inondation.
Plutôt que de regratter les petits particuliers qui avaient peut-être d'autres moyens, un soutien de l'État par exemple, c'est encore notre portefeuille qui va trinquer.
Dans la commune, un tiers des 900 foyers inondés attendent encore d'être indemnisés, selon David Capitaine de l'association Blandec Sinistré. Mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est de perdre leur assurance.
Les sinistrés se disent, mais je ne peux pas trop râler auprès de mon assurance, sinon ils vont peut-être plus vouloir m'assurer derrière, ils vont rompre le contrat comme ils en ont le droit.
Un risque qui pourrait augmenter.
Le réchauffement climatique va générer des catastrophes supplémentaires.
Alors Josiane Janisset, présidente de l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations, estime que le régime des catastrophes naturelles doit financer davantage la prévention.
Chaque année, c'est environ 400 millions d'euros qui sont dépensés pour la prévention, seulement 400 millions d'euros, alors que pour la remise en état, c'est 1,8 milliard, voire plus 3,5 milliards en 2023. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Une prévention qui passe pour elle par le rachat par l'État des logements devenus inhabitables.
25 millions de Français sont désormais exposés au risque d'inondation. 8 départements sont toujours ce matin en vigilance orange au cru.
Il est 7h05, le conflit au Proche-Orient est-il au bord de l'escalade ?
Question posée après le raid attribué à Israël qui a pulvérisé le consulat iranien à Damas hier, dans le quartier des ambassades de la capitale syrienne. Le consulat n'est plus qu'un tas de ruines. Les vitres des immeubles se sont brisées jusque 500 mètres alentour. C'est le 5e raid qui vise la Syrie en 8 jours. Le Hamas dénonce une dangereuse escalade. La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Téhéran promet de riposter à cette frappe qui a fait 11 morts, des gardiens de la révolution iranienne et 2 hauts gradés, Noé Pignède.
Tué dans la frappe sur le consulat iranien de Damas, Mohamed Reza Zahedi était le responsable des gardiens de la révolution iranienne en Syrie et au Liban. C'est donc lui qui était en charge de coordonner l'action des différentes milices financées par la République islamique comme le Hezbollah, des milices engagées aux côtés du Hamas dans la guerre contre Israël. Avant d'occuper ce poste, il a successivement été le commandant des armées de l'air et de terre iraniennes. C'est donc une des principales figures militaires du régime des Mollahs qui vient d'être assassiné. À ses côtés, 2 autres généraux ont également été tués. Ce ne sont pas les premiers chefs de l'axe iranien à être visés par Israël. Le pays mène une campagne d'assassinat ciblé depuis plusieurs mois, mais cette attaque est une escalade majeure dans la région. C'est la première fois qu'une ambassade est bombardée. L'Iran promet une riposte d'ampleur qui pourrait se traduire par de nouvelles attaques de ses milices contre Israël, mais aussi contre les troupes américaines stationnées dans toute la région.
Précision de Noé Pignède, notre correspondant au Liban. De son côté, la Maison-Blanche demande des explications à Israël et dit avoir, je cite, « le cœur brisé après la mort de plusieurs travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza. 4 étrangers, dont une Australienne et leur chauffeur palestinien. Leur véhicule a été bombardé. » C'est le 5e président du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye sera investi en fin de matinée près de Dakar, cérémonie en présence des principaux chefs d'État africains du secteur.
Il est 7h07, c'est la réforme de trop pour les enseignants.
Celle des groupes de niveau au collège, voulue par Gabriel Attal après des mois de mobilisation. Nouvelle journée de grève aujourd'hui contre ce que les syndicats appellent un tri des élèves. Ils demandent aussi plus de moyens pour l'école publique pendant qu'on attend aujourd'hui la remise d'un rapport parlementaire sur le financement de l'école privée. Il y apparaît que personne ne sait quelles sommes sont allouées aux établissements scolaires privés. À ce manque de transparence s'ajoute aussi un manque de contrôle déjà pointé par la Cour des comptes. Autre mouvement social aujourd'hui, les guichetiers de la Poste appelés à la grève pour de meilleures conditions de travail. Explication dans une demi-heure. Leur arrestation avait fait grand bruit à l'époque au Pays Basque avec une manifestation de solidarité de milliers de personnes à Bayonne. Le procès aujourd'hui à Paris d'un homme et d'une femme arrêtés en 2016 en possession d'une partie de l'arsenal de l'ETA. Des armes de poing, des pistolets mitrailleurs, des fusils d'assaut, des roquettes avaient été déposées dans une pièce de la maison d'une des prévenus. Dans le but, disent les militants basque, de les détruire pour activer le processus de paix. Ils avaient été arrêtés lors d'une opération conjointe du renseignement français avec les Espagnols. Morgane Klein refait.
Quand Béatrice Moll et Jean-Noël Etcheverry sont arrêtés, ça fait déjà 5 ans que Théa a annoncé déposer les armes, mais son stock, lui, est toujours caché dans les forêts basques.
Les militants de cette organisation qui se livraient à l'inventaire ou mis sous scellé de cet arsenal se faisaient arrêter.
Pour Jean-Noël Etcheverry, la société civile devait prendre le relais.
Nous avons dit à l'organisation État, nous on est prêts à procéder au démantèlement de votre arsenal. On a pris des machines qui permettaient de couper les canons des armes longues et de percer les barillets des armes courtes sans empêcher l'identification judiciaire.
Mais pour le juge, c'est bien une destruction des preuves qui était recherchée. Il reconnaît la volonté de désarmer, mais retient quand même le caractère terroriste, car les prévenus savaient que ces armes appartenaient à ETA.
J'ai un peu de mal tout de même à comprendre.
Béatrice Moll l'assure.
Notre action, elle s'inscrit dans ce processus de paix. C'est vrai, il n'y avait pas eu de contact avec le gouvernement. Ça a permis, par contre, que là, le désarmement se fasse 3 mois et demi après, avec la tolérance du gouvernement français de l'époque.
Car de fait, après ça, des armes ont été remises par des militants basques à 3 reprises aux autorités, sans que personne, ces fois-là, ne soit arrêté.
Le procès se poursuit encore demain. L'ETA s'est autodissoute en 2018. Elle est tenue pour responsable de la mort de 850 personnes. Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie et les loyalistes attentifs à la décision du Sénat qui se prononce cet après-midi sur une décision assez technique sur le corps électoral du territoire gelé depuis les accords de Nouméa et qui pourrait bouleverser les équilibres politiques locaux. Elles ont profité d'un hiver peu rigoureux. Les chenilles processionnaires du pin sont sorties, classées nuisibles depuis 2 ans. Ces larves de papillons nuit prolifèrent, y compris jusque dans les 850 hectares du parc du château de Versailles, où le jardinier en chef Alain Baraton, bien connu des auditeurs d'Inter, veille au grain Laurent Kramer.
Inspection des pins et des chênes, c'est le même rituel pour Alain Baraton chaque année.
Tous les ans, on voit si elles sont là ou pas. C'est la première année que nous avons autant de chenilles processionnaires à Versailles. On n'a jamais vu autant de nids. Et là, on voit devant nous un pin attaqué par les chenilles.
Impossible de laisser cette colonie s'installer dans le parc du château de Versailles.
Elles sont capables de déplumer complètement un arbre en quelques jours seulement. Mais si d'aventure ces nids venaient à rester en place, eh bien le parc sera rapidement contaminé.
Pas question d'abattre ces arbres, alors les équipes d'Alain Baraton montent jusqu'à 15 ou 20 mètres déloger les nids installés dans ces pins.
On se couvre d'une combinaison plastique, on met des gants et on porte des lunettes de protection également. Et il faut savoir que ces chenilles, même à distance, sont capables de balancer leur venin.
Et l'accueil du public impose les plus grandes précautions.
Ces chenilles, elles sont extrêmement urticantes. Et quand elles tombent à terre, pour peu qu'une tondeuse vienne étaler l'ensemble de la population, eh bien on a déjà même une fois déclenché un plan rouge à cause justement de la présence de ces chenilles dans l'herbe. Même mortes, elles continuent d'être urticantes.
La méthode douce est donc la plus efficace avec des pièges à phéromones ou des nichoirs à mésanges qui ont été installés.
Quand on installe des nichoirs à proximité des pins, eh bien les mésanges sont capables, certains jours, d'embouloter jusqu'à 3 voire 400 chenilles.
Surtout pas d'insecticides, insiste un labarat. Il tue tous les papillons présents sur le secteur.
C'est leur match de l'année. Les footballeurs de Valenciennes, dernier de Ligue 2, est promis à la relégation en demi-finale de la Coupe de France. Et ce soir, contre Lyon. Et puis, autre événement qui se passe aujourd'hui au rayon BD des librairies. La sortie de La Route de Manu Larcenet, adaptation du best-seller de Cormac McCarthy. Périple angoissant de 2 survivants, un père et son fils. Histoire glaçante qui a touché Manu Larcenet, star de la bande dessinée que vous avez rencontré, Alexis Demeyer.
Tous les animaux et les arbres sont morts, l'humanité semble vivre ses dernières heures. C'est une bouleversante dystopie aux accents écolo qu'a choisi d'adapter Manu Larcenet.
L'envie primale, c'est l'ambiance. Tout est rouillé, tout est cassé, la cendre, tout est bousillé. Pour moi, ça part toujours de ça. C'est d'abord une émotion visuelle, parce qu'en plus, c'est une histoire qui ne respecte pas le fameux truc que les gens du cinéma arrêtent pas de me bassiner avec, ils font un arc narratif. Je n'en peux plus de l'arc narratif. Et là, c'est tout sauf ça, c'est des petites scénettes, et puis finalement, à la fin, tout prend sens. C'est pas hollywoodien, il n'y a pas de « tiens, je vais quand même vous faire un truc un peu plus rigolo au milieu ». Non, 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 c'est du désespoir d'un bout à l'autre.
Et le résultat est magistral. 9 ans après son adaptation très sombre du rapport de Brodeck de Philippe Claudel, Manu Larcenet prolonge son travail sur la noirceur avec des planches d'une beauté vertigineuse et d'une précision fascinante.
C'est toujours un peu honte d'adapter des romans parce que c'est comme un aveu de faiblesse. J'arrive pas à écrire, donc je vais prendre les mots des autres. Comme j'avais un peu honte, j'ai mis des tonnes de détails, mais je voulais que les gens déchiffrent parfois le truc. Dans ce livre, il n'y a pas de perspective. Donc si j'en mets une graphique où on voit la route qui nous emmène vers... Non, il n'y a pas de ça.
Après un tunnel d'un an et demi de travail sur cet album, Manu Larcenet a donc ressenti le besoin de rapidement tourner la page. Il nous le promet, sa prochaine BD sera pleine de couleurs, de jeux de mots et de personnages avec des gros nez.
Et La Route est publiée aux éditions d'Argaud.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, zoom exclusif sur l'IRM le plus précis au monde, installé en Île-de-France.